Septième partie. La Grande Muraille. Chapitre 49. In Memoriam. Tandis qu'ils déchargeaient le matériel de Bill T sur le granit de leur petite aire d'atterrissage, Chris Floyd avait du mal à arracher ses yeux de la montagne qui les dominait. Un gigantesque diamant plus gros que l'Everest. Tous ces tessons épars autour de la navette ne devaient pas valoir des millions, mais des milliards. D'un autre côté, il risquait de ne pas valoir plus que des débris de verre. La valeur du diamant avait toujours été contrôlée par les marchands et les producteurs, mais si une véritable montagne de pierres précieuses était tout à coup jetée sur le marché, les cours s'effondreraient immanquablement. Floyd commençait à comprendre pourquoi tant de groupes divers s'intéressaient à Europe. Les ramifications politiques et économiques étaient infinies. Maintenant qu'il avait au moins vérifié son hypothèse, Vanderberg était revenu à son idée fixe, pressé d'achever son expérience sans autre distraction. Avec l'aide de Floyd, ce n'était pas facile d'extraire le volumineux matériel de la minuscule navette, il commença par forer un trou avec une perceuse électrique portative pour en retirer une carotte d'un mètre qu'il rapporta à la Bill T. Floyd aurait agi différemment, mais il reconnut qu'il était logique de commencer par le plus dur. Vanderberg attendit d'avoir déployé un sismographe et installé une caméra de télévision panoramique sur un lourd trépied bas, avant de ramasser un peu des incroyables richesses parsemées autour d'eux. « Faute de mieux, » dit-il en choisissant avec soin les fragments les moins dangereux, « ça fera de bons souvenirs, à moins que les copains de Rose ne nous assassinent pour les voler. » Vanderberg jeta un vif coup d'œil à son compagnon. Il se demanda ce que Chris savait réellement ou ce qu'il avait deviné. Il n'aurait rien à y gagner maintenant que le secret est éventé. D'ici une heure, les ordinateurs à la bourse vont devenir fous.
Sacré professeur ! S'écria Floyd avec plus d'admiration que de rancœur. C'était donc ça votre message ?
Rien n'interdit à un savant de gagner accessoirement un peu d'argent. Mais je laisse les détails sordides à mes amis de la Terre.
Tout à fait entre nous, je suis beaucoup plus intéressé par notre travail ici. Passez-moi donc cette pince, s'il vous plaît. »
Avant d'avoir fini l'installation de la station Zeus, ils faillirent être renversés trois fois par des secousses telluriques. Ils sentaient d'abord une sorte de vibration sous leurs pieds, et puis tout se mettait à trembler, et finalement un long gémissement horrible, un grondement, semblait venir de toutes les directions à la fois. C'était pour Floyd ce qu'il y avait de plus étrange. Il n'arrivait pas très bien à s'habituer à ce qu'il y ait juste assez d'atmosphère autour d'eux, pour permettre les conversations à courte portée sans radio. Vanderberg, lui, répétait que les séismes n'étaient pas encore dangereux, mais Floyd s'était toujours méfié des experts. Bien sûr, le géologue venait de donner la preuve spectaculaire qu'il ne s'était pas trompé. En regardant la Bill T se balancer sur ses amortisseurs comme un navire en pleine tempête, Floyd espérait que la chance de Van tiendrait encore pendant quelques minutes.
« Voilà, ça devrait aller. »
annonça enfin le savant au grand soulagement de Floyd.
Ganymède reçoit des informations claires sur tous les canaux. Les batteries vont durer des années, avec ce panneau solaire pour les recharger continuellement.
Si tout ce matériel est encore debout dans 8 jours, je serais très étonné. Je jurerais que cette montagne a bougé depuis que nous avons atterri. Filons avant qu'elle nous tombe dessus.
J'ai davantage peur, répliqua Vanderberg en riant, que le souffle de votre tuyère démolisse tout notre travail.
Pas de danger. Nous sommes bien à l'écart et maintenant que nous nous sommes débarrassés de tout le bric-à-brac, nous n'aurons besoin que de la moitié de la puissance pour décoller. À moins que vous ne vouliez embarquer encore quelques milliards de plus, ou trillions.
Ne soyons pas cupides.
D'ailleurs, je suis bien incapable de dire combien ça vaudra quand nous serons de retour sur la Terre. Les musées vont s'en emparer, naturellement. Après, allez savoir.
Les doigts de Floyd volèrent sur le tableau de bord et il entra en communication avec Galaxy.
Première phase de la mission achevée. Bill T prêt au décollage. Plan de vol comme convenu.
Ils ne furent pas surpris quand le capitaine Laplace répondit
« Vous êtes bien sûr de vouloir aller jusqu'au bout.
N'oubliez pas que la décision finale vous revient.
Quoi que vous fassiez, je vous soutiendrai. »
« Oui, capitaine, mais nous sommes contents tous les deux. Nous comprenons les sentiments de l'équipage et le bénéfice scientifique sera énorme. » Nous sommes tous deux surexcités.
Un instant. Nous attendons toujours votre rapport sur le monde Zeus. »
Floyd regarda Vanderberg, qui fit un geste résigné et prit le microphone.
« Si nous vous le disions maintenant, capitaine, vous nous prendriez pour des fous ou vous croiriez à un canular. Attendez encore une heure ou deux, je vous en prie, que nous soyons de retour, avec la preuve.
» Ça ne servirait pas à grand-chose de vous donner un ordre, n'est-ce pas ? Ma foi, bonne chance quand même. Et meilleurs vœux aussi de la part du grand patron. Il trouve que c'est une idée merveilleuse d'aller survoler Tsien.
J'étais sûr que Sir Laurence approuverait, dit Floyd à son compagnon. Et d'ailleurs, Galaxy étant déjà complètement perdu, Bilty n'est pas un bien grand risque supplémentaire après tout.
Vanderberg approuva, mais il n'était pas entièrement d'accord. Il avait établi sa réputation scientifique. Maintenant, il voulait en profiter.
« Ah, au fait, » reprit Floyd, « qui est Lucie ? Quelqu'un de particulier ?
Pas que je sache. Nous sommes tombés sur elle lors d'une recherche par ordinateur et nous avons pensé que ce nom ferait un bon code. Tout le monde doit supposer qu'il concerne Lucifer, ce qui est un peu vrai, donc davantage trompeur. Je n'avais jamais entendu parler d'eux, mais il y a plus d'une centaine d'années, un groupe de musiciens au nom bizarre, les Beatles, a écrit une chanson au titre encore plus bizarre. « Lucy in the Sky with Diamonds ». Curieux, non ? Presque comme s'ils avaient su.
D'après le radar de Ganymède, l'épave de Tsien se trouvait à 300 km à l'ouest du mont Zeus, en direction de la zone baptisée « crépusculaire » et des régions froides au-delà. Elles étaient en permanence glaciale, mais pas obscures. La moitié du temps, le lointain soleil les éclairait brillamment. Cependant, même à la fin du long jour solaire européen, la température restait bien au-dessous de zéro. Comme l'eau liquide ne pouvait exister que dans l'hémisphère éclairé par Lucifer, la région intermédiaire était un secteur d'éternelle tempête où rivalisaient la pluie et la grêle, le grésil et la neige. Au cours du demi-siècle écoulé depuis le dramatique atterrissage de Tsien, le vaisseau s'était déplacé de près de 1000 km. Il avait dû dériver, comme Galaxy, pendant plusieurs années sur la mer de Galilée nouvellement créée, avant d'échouer sur cette lugubre côte inhospitalière. Floyd capta l'écho-radar dès que Bilty se stabilisa à la fin de son deuxième bond sur Europe. Le signal était bizarrement très faible pour un objet aussi énorme. Dès qu'ils eurent percé le plafond de nuages, ils comprirent pourquoi. L'épave du vaisseau spatial Tsien, premier véhicule habité à se poser sur un satellite de Jupiter, se trouvait au centre d'un petit lac circulaire, manifestement artificiel, relié par un canal à la mer, à moins de 3 km. Il n'en restait que le squelette, et même pas complet. La carcasse avait été complètement pillée. Mais par quoi ? Se demanda Vanderberg. Il n'y avait aucune trace de vie par là. L'endroit paraissait abandonné depuis des années. Pourtant, il était indiscutable que quelque chose avait dépouillé l'épave, délibérément et avec une précision quasi chirurgicale.
Nous pouvons apparemment nous poser sans danger, dit Floyd, et il attendit quelques secondes le hochement de tête distrait de Vanderberg.
Le géologue vidéoscopait déjà tout ce qu'ils avaient sous les yeux. Bilty se posa sans difficulté sur le bord du bassin, et les deux hommes contemplèrent, dans l'eau noire glaciale, ce monument aux impulsions exploratrices de l'homme. Ils ne voyaient aucun moyen commode de s'approcher de l'épave, mais cela n'avait pas grande importance. Une fois revêtus de leur combinaison, ils portèrent la couronne au bord de l'eau et la tinrent solennellement devant la caméra pendant quelques secondes, puis ils lancèrent cet hommage de l'équipage de Galaxy. Elle avait été superbement composée. Bien que les seules matières premières disponibles eussent été du métal, du papier et du plastique, on aurait cru que les feuilles et les fleurs étaient vraies. Épinglés sur tout le pourtour, il y avait des billets et des inscriptions, dont beaucoup étaient écrits avec les anciens idéogrammes maintenant officiellement périmés, au lieu des caractères romains. Alors que les deux hommes retournaient vers la navette, Floyd demanda d'un air songeur «
Avez-vous remarqué ? Il ne reste pratiquement plus de métal, rien que du verre, du plastique, des matières synthétiques.
Et les poutrelles de soutien ?
Alliage. Surtout de carbone, de bord. Il y a par ici quelqu'un qui est très friand de métal et qui sait le reconnaître quand il en voit. Intéressant.
Très, pensa Vanderberg. Sur une planète où le feu ne pouvait exister, les métaux et les alliages étaient presque impossibles à fabriquer. Et devaient être aussi précieux que... eh bien, que des diamants. Quand Floyd eut fait son rapport à la base et reçu un message de remerciement du lieutenant Chang et de ses camarades, il emmena Bill T à 1000 mètres et continua de voler cap à l'ouest.
« Dernière étape, » dit-il. « Inutile d'aller plus haut. Nous serons là-bas dans 10 minutes. Mais nous ne nous poserons pas. Si la Grande Muraille est ce que nous pensons, je préfère ne pas y toucher. Nous ferons un survol rapide et rentrerons à la maison. Préparez vos caméras. Ça pourrait être encore plus important que le Mont Zeus. »
Et, ajouta-t-il à part lui, « Je vais sans doute savoir bientôt ce que grand-papa Heywood a éprouvé, pas très loin d'ici, il y a 50 ans. Nous aurons beaucoup de choses à nous raconter quand nous nous retrouverons. Dans moins d'une semaine, si tout se passe bien. »